du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le dimanche de la Trinité. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en vont en Galilée, à la montagne que Jésus leur a désignée. En le voyant, ils se prosternent, mais certains ont des doutes. S'approchant, Jésus leur adresse ces paroles.
« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, baptisant les disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voici une belle fresque qui vient clore le récit évangélique de Matthieu. Le récit est à la fois majestueux et sobre. En effet, l'apparence de Jésus n'est pas décrite. Et seules ses paroles nous donnent cette impression de grandeur quasi divine.
Oui, cette finale du récit évangélique de Matthieu est très différente de celle de Luc. Luc situe la dernière rencontre entre Jésus et ses disciples à Béthanie, un village proche de Jérusalem. Et il parle de l'ascension de Jésus, alors que Matthieu ne décrit pas vraiment le départ du Christ. Alors comment expliquer cela ? Bien, il ne faut jamais perdre de vue que les évangiles sont avant tout des catéchèses. Ils racontent l'histoire en fonction du message qu'ils veulent illustrer. Les lieux sont choisis d'abord pour leur valeur symbolique plus que pour la réalité historique. Et ce sera donc le message qui se trouve dans ce texte qu'il nous faudra éclairer.
Les disciples s'en vont à la montagne que Jésus leur a désignée.
Eh bien, le récit, on le voit, ne mentionne pas le nom de cette montagne. Peut-être parce qu'il veut fixer l'attention davantage sur le symbole que la montagne représente. Dans toute la Bible, en effet, la montagne, on le sait, est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est là que Dieu s'y révèle et qu'il fait entendre sa parole. C'est sur la montagne du Sinaï que Moïse a reçu de Dieu les 10 paroles qui sont le cœur de la Torah, l'enseignement divin. De même, c'est sur la montagne que Jésus proclame les béatitudes, qui est cet ensemble de paroles qui forment la propre interprétation que le Christ fait de la Torah. Matthieu a rassemblé d'ailleurs dans ces chapitres 5 et 6 l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Souvenons-nous encore de la montagne de la Transfiguration. Avec Moïse et Élie, Jésus parle de son exode qui va s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire de son choix de marcher librement vers sa mort, d'aller vers la croix. Et alors la voix du Père retentit pour confirmer Jésus dans ce choix. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Eh bien, c'est sur la montagne de Galilée que Jésus ressuscité se trouve. Et il ne se trouve là non plus du côté de l'humain, mais déjà du côté de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui se fait voir, mais c'est Jésus ressuscité qui se fait voir à ses disciples pour leur donner son ordre de mission. Et les disciples réagissent comme on réagit devant Dieu, ils se prosternent. Cependant, le récit ajoute une phrase un peu curieuse, certains eurent des doutes, et les spécialistes hésitent sur la traduction. Certains traduisent « eux qui d'autre part avaient douté », d'autres disent « mais certains doutent ». C'est intéressant de remarquer que tous les récits évangéliques parlent du doute des disciples. En Marc, Jésus apparaît à Marie-Madeleine qui va annoncer la nouvelle aux disciples. En entendant dire que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu, les disciples ne la crurent pas. Et Luc dit que ces propos des femmes semblent aux disciples du radotage et qu'ils refusent de les croire. L'évangile de Jean, lui, raconte l'incrédulité de Thomas. « Cesse d'être sans foi, mais aie foi, lui dira Jésus. » Alors, on a peut-être voulu rappeler ce doute dans le seul passage de l'évangile de Matthieu qui parle de la rencontre de Jésus avec les onze.
Comment comprendre ce manque de foi de quelques disciples ?
Bien, ce doute semble montrer qu'aucun disciple ne s'attendait à la résurrection de leur rabbi Jésus. Il y avait eu, certes, les promesses qu'il ressusciterait au troisième jour, mais cette expression était alors comprise comme le dernier jour de l'histoire, le grand jour de la résurrection des morts. C'est ainsi, on s'en souvient, que Marc avait compris l'affirmation de Jésus à propos de Lazare, son frère. « Ton frère ressuscitera. » »« Oui, je sais qu'il ressuscitera, dit-elle, à la résurrection au dernier jour. » L'expression « le troisième jour », d'où vient-elle ? Eh bien, elle se trouve dans le livre du prophète Osée.
« Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. »
Dans ce texte du prophète, on parle d'abord du peuple de Dieu qui est comme mort à cause de ses fautes et qui espère que Dieu va le relever et le faire revivre. Mais au long des siècles, les paraclets interprètes dans les synagogues vont interpréter ce texte en l'appliquant à la résurrection des êtres humains. C'est ce que nous révèlent les textes juifs qu'on appelle les Targoum.
Il nous fera revivre au jour des consolations qui doivent venir, au jour de la revivification des morts. Il nous ressuscitera et nous vivrons devant lui.
Ce Targoum montre comment la tradition juive a compris le troisième jour. Le chiffre 3 n'est plus chronologique, mais symbolique. Il désigne le jour du salut, de la délivrance finale, le jour de la consolation des morts. Et cette interprétation des Targoum est ce qui nous permet de voir comment les contemporains de Jésus comprenaient cette expression du troisième jour, conformément aux Écritures, comme le dit la lettre de Paul aux Corinthiens. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Mais d'autre part, ce doute nous fait comprendre que voir le ressuscité, c'est d'abord un acte du ressuscité lui-même, c'est le ressuscité qui se fait voir. Et cela ne se fait pas avec les yeux du corps. On ne peut discerner la présence du Seigneur ressuscité qu'avec les yeux intérieurs, ceux de la foi. Il faut être sur la longueur d'onde de la résurrection pour voir celui que Dieu a fait revivre. Et quelle est cette longueur d'onde ? Eh bien, c'est de croire en l'amour qui livre sa vie comme gage de pardon à ceux qui lui font violence. Un pardon qui veut vaincre la haine et convertir le violent. Si les disciples doutent de la résurrection, c'est qu'ils ne comprennent toujours pas le sens de la mort de Jésus. On se souvient en effet qu'à Pierre, qui l'invitait à ne pas se livrer aux chefs juifs, Jésus avait dit « Tes vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes ». Combien, en effet, il nous est difficile encore aujourd'hui de croire que l'amour peut vaincre le mal, de croire que le pécheur ne sera pas converti par la punition, le châtiment, mais dans la mesure où l'on fera appel à l'étincelle de bonté qui se trouve cachée au plus profond de son cœur. Le fait que Jésus soit ressuscité, cela atteste que cette capacité d'aimer jusqu'au don de soi peut être plus forte que la mort, et que Jésus revient à la vie pour nous aider, nous aussi, à vivre à notre tour le pardon.
Les onze disciples s'en vont en Galilée.
Oui, ils observent ce que le ressuscité a demandé par l'intermédiaire des femmes.
« Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. »
Cela fait écho, en effet, à ce qu'avait dit Jésus au Mont des Oliviers avant son arrestation.
« Cette nuit même, tous vous tomberez à cause de moi. Il est écrit, « Je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Alors pourquoi la Galilée ? C'est la Galilée des païens, comme on disait, le carrefour des nations. En effet, cette région de la Palestine était peuplée de juifs et de païens. Et c'est le terrain que Jésus avait choisi comme pour être le premier lieu de sa prédication, contrairement à Jean le Baptiste qui, lui, se tenait dans la région du Jourdain. Ce choix, eh bien, il peut être compris comme une volonté de Jésus de permettre au peuple païen, aux païens, de connaître son message.
Pourquoi Jésus ressuscité y convoque-t-il ses disciples?
Eh bien, sans doute pour bien indiquer le nouveau départ de sa mission. Alors que Moïse avait formé, au l'an 1200, un prototype du règne de Dieu à partir des tribus juives, l'Évangile va inspirer un nouveau prototype du règne de Dieu, un prototype qui va rassembler des disciples de toutes les nations. Jusque-là, avec Moïse, le peuple de Dieu, c'était Israël, et son centre était Jérusalem, le lieu du temple, de la demeure de Dieu. Eh bien maintenant, un peuple de Dieu va pouvoir se constituer à partir des peuples païens, et le centre symbolique de ce peuple nouveau ne sera plus Jérusalem, mais sera la Galilée, le carrefour des nations. Allez donc enseigner toutes les nations. Nous, les chrétiens de l'an 2000, nous avons peine à imaginer la révolution qu'est cet ordre de mission. Car malgré des incursions en territoire païen, Jésus avait jusqu'alors limité son enseignement à Israël. À la Cananéenne qui demande la guérison de sa fille, est-ce qu'il n'avait pas répondu « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Après Pâques, l'accueil des païens dans l'Église va se faire souvent avec difficulté. La communauté de Jérusalem autour de Jacques, le frère du Seigneur, une communauté qui est formée de juifs convertis à l'Évangile, cette communauté va avoir beaucoup de mal à s'ouvrir à l'universalisme. Il faudra l'intervention de l'Esprit pour décider Pierre à baptiser un centurion qui est un païen, Corneille.
Je saisis que Dieu n'est pas partial, et qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture lui est agréable. Jésus le Christ, qui a annoncé l'évangile de la paix, est le Seigneur de tous.
Il est le Seigneur de tous, des Juifs et des païens. Et il faudra l'enthousiasme de Paul et aussi sa persévérance pour que cette ouverture à tous les peuples se réalise pleinement. Aux nouveaux chrétiens d'Éphèse qui sont venus du paganisme, Paul écrit
« En ce temps-là, vous étiez sans Messie, privé du droit de cité en Israël. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. » C'est lui qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a voulu, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps.
Oui, cette réconciliation, c'est bien la raison première du choix de Jésus de livrer sa vie. Non seulement ce don de lui-même veut vaincre par l'amour le rejet des chefs juifs, mais Jésus ressuscité, vivant à jamais, va donner sans cesse son amour pour que soit réalisée la paix entre tous les êtres humains. Et c'est cela qui doit marquer sans cesse la mission de l'Église. L'Église du ressuscité a une vocation à l'universel. Non seulement en accueillant des disciples de toutes les nations, mais aussi en collaborant à tout ce qui peut contribuer à l'unité, aussi bien dans la parenté, dans un lieu de travail, dans un village, dans une ville, dans un pays. Collaborer à tout ce qui peut contribuer à l'unité. L'Église du ressuscité ne peut jamais se refermer sur elle-même, sur ses fidèles. Elle doit, avec persévérance, sans cesse, se convertir elle-même pour être le levain de l'unité dans le monde. Le disciple de Jésus doit être, comme on pourrait dire aujourd'hui, un disciple sans frontières. Il a mission d'être un artisan de la paix au sens biblique qui est la réconciliation, la construction de l'unité, et pas seulement l'absence de chicane. Dans un monde qui devient un village global où se côtoient toutes les races et toutes les croyances, ce rôle des disciples de Jésus revêt toute sa brûlante actualité. Il y a dans cet enseignement de Jésus un rejet de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire du repli sur son propre peuple, sur sa nation. Oh certes, l'ethnie, la nation, peut être un ciment d'unité, mais jamais elle ne doit devenir un absolu. Aucune ethnie, aucune nation ne peut prétendre être supérieure et exclusive. Pour tout humain, l'autre humain doit être vu comme étant un frère, une sœur. Et pour Jésus, c'est dans la reconnaissance de Dieu comme unique Père que tous les humains peuvent se rassembler. Écoutons comment Jacques Leuve décrit cette nécessité pour les chrétiens de vivre une fraternité ouverte à tous, une fraternité universelle.
La communauté est comme ce laboratoire où se fabrique la charité, mais celle-ci doit ensuite s'étendre aux autres. Réserver son amour aux membres de la communauté, c'est tomber dans l'égoïsme à quelques-uns. Dès qu'une communauté chrétienne se referme sur elle-même, quelle que soit la grandeur de l'amour fraternel qui unit ses membres, c'en est fait de la vie chrétienne authentique.
De nos jours, les événements des Balkans, de l'Irlande, de certains pays africains manifestent hélas que la paix est éminemment difficile et qu'il nous faut appeler sur nous la force de l'Esprit du Christ pour être des témoins de son amour et des constructeurs d'unité.
Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Comme Dieu avait donné à Moïse la Torah, la règle de vie, ainsi Jésus donne ses préceptes de vie pour vivre à la manière du Dieu Père qui est amour. Cette communauté réunie au nom de Jésus prendra le nom d'Église. Le mot « église » vient du grec « ecclesia » qui veut dire « assemblée », un mot qui d'ailleurs traduit le mot hébreu « kahal » qui désignait l'assemblée d'Israël, le peuple de Dieu. L'église est ainsi une assemblée de disciples, c'est-à-dire d'apprenneurs, d'élèves qui se mettent à l'école du maître qu'est Jésus pour y apprendre son évangile et pour en vivre. Ce qui fait le juif, c'est qu'il est à l'écoute de Dieu. Chaque matin, dans sa prière, il redit sa profession de foi qui commence par ces mots « Schéma Israël, écoute Israël. » Et ce qui fait le chrétien, c'est qu'il est à l'écoute de Jésus, celui qui révèle pleinement le Père. « Venez à moi, mettez-vous à mon école. » Cette école, elle ne sera plus réservée seulement aux Juifs. Déjà, effectivement, Israël accueillait des gens d'autres peuples qui se convertissaient, mais c'était en les nationalisant, en les agrégeant au peuple par la circoncision. Tout être humain, de quelque peuple qu'il soit, peut être disciple de Jésus. Le christianisme, qui aurait pu devenir une sorte d'école juive, de confrérie juive, va quitter la synagogue pour devenir un peuple universel, catholique, au sens précis du mot catholicos, qui veut dire universel. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, résumera bien la mission de cette église appelée à évangéliser tout être humain.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, qu'il avait déjà promis par ses prophètes, concerne son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi tous les peuples païens dont vous êtes, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. Baptisant les disciples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
On peut s'étonner de cette formule, une formule trinitaire qui est nouvelle dans la bouche de Jésus. Des spécialistes pensent qu'elle a été introduite plus tard dans le récit évangélique. Il semble en effet qu'au début on baptisait seulement au nom de Jésus. Baptiser, cela signifie plonger quelqu'un ou se plonger dans l'eau. Mais cette plongée dans l'eau veut signifier une autre plongée. Le baptême plonge le disciple dans l'enseignement de son maître. Cependant, le baptisé ne devient pas seulement l'adepte d'une doctrine, mais il est appelé à devenir l'ami du maître, car il va recevoir de lui plus qu'une doctrine, il reçoit son amitié.
Je ne vous dis plus serviteur, mais je vous dis ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce que Jésus transmet à ses disciples, il leur faut le garder dans la mémoire profonde de leur être, le sauvegarder en eux pour en faire ce qui va informer toute leur existence, leur manière quotidienne de vivre et d'agir.
Celui qui a mes préceptes et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
Pour être son disciple, il faut donc plonger dans la vie même de Jésus et par lui être imprégné de l'amour du Père en recevant son esprit. Devenir chrétien, c'est plus qu'accueillir des valeurs morales les plus hautes soient-elles, comme celles de l'amour-charité. Être chrétien, c'est devenir véritablement l'intime de Jésus et par lui devenir l'intime du Père.
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Durant son procès devant le Sanhédrin, Jésus avait répondu « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Cette réponse faisait sans doute référence au texte du prophète Daniel. Le prophète Daniel avait annoncé un Fils de l'homme qui serait vainqueur avec Dieu.
Au Fils de l'homme fut donné empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Son empire est empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit.
Il semble que ce Fils de l'homme est un personnage qui représente d'ailleurs tout le peuple des fils et des filles de Dieu. Au temps de Daniel, c'est-à-dire 150 ans avant Jésus, cette prophétie était une promesse pleine d'espérance. En effet, après des siècles d'oppression par les puissances voisines, c'était l'espoir qu'Israël serait enfin libéré et que tous les peuples lui seraient unis dans la foi au Dieu unique. Eh bien, Jésus reprend sans doute ce texte, mais en le purifiant de tout contexte politique. Il ne s'agit plus d'Israël et de la soumission des peuples païens réunis autour d'Israël, mais il s'agit plutôt de l'invitation qui sera faite à tout être humain de devenir disciple de Jésus dans une communauté sans distinction de race et de classe. Ce règne de Dieu atteindra d'ailleurs tous les humains de bonne volonté qui auront su être solidaires des plus petits de leurs prochains. C'est, on s'en souvient, ce que Jésus avait enseigné dans la parabole du jugement dernier.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, devant lui seront rassemblées toutes les nations. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. »
On le voit, la seigneurie du Christ n'a rien de la gloire des puissants de ce monde. Elle est celle d'un Fils de Dieu qui se fait le prochain des humbles et des pauvres parce qu'il est le témoin d'un Dieu qui n'est qu'amour.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Cette apparition de Jésus ressuscité est décrite ici comme un envoi en mission. Dans la Bible, le doute, la réticence sont des attitudes fréquentes lorsque Dieu donne mission à quelqu'un. Rappelons-nous Moïse qui dit à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre que lui car il ne sait pas parler.
Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole. J'ai la langue lourde.
Rappelons-nous Jérémie dont Dieu veut faire un prophète pour les nations païennes.
Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, car je suis trop jeune.
Et à chaque fois, devant cette crainte, ce doute, Dieu promet d'être là.
Le Seigneur dit à Moïse, « Qui a donné une bouche à l'humain ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? Et maintenant, va, je suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. »
Et Dieu dit à Jérémie,
« Partout où je t'envoie, tout ce que je te commande, dis-le. N'aie pas peur de personne, je suis avec toi. »
Et au 11, sur la montagne, Jésus dit « Je suis avec vous ». Cette affirmation « Je suis avec vous », elle se trouve d'une certaine manière déjà au début de l'Évangile, car le surnom de Jésus « Emmanuel » se traduit « Dieu avec nous ». Désormais, c'est par Jésus et son Esprit que Dieu est et sera avec l'humanité jusqu'à la fin du temps.
Comment comprendre et vivre de cette présence de Dieu dans notre monde ?
Dans le fond de notre cœur, en effet, est-ce qu'il n'y a pas le doute, comme chez les disciples ? Dieu n'est-il pas si peu présent, si grandement absent ? Car il n'enlève ni maladie, ni souffrance, ni misère, ni guerre. Où est-il ton Dieu ? Cette question qui est posée dans le psaume est toujours actuelle. Mais si nous trouvons que Dieu est si peu présent, c'est peut-être parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu est humble et discret, et il est discret parce qu'il n'est qu'amour. Nous sommes parfois tentés de conclure, « Mais Jésus est parti près de son Père, il n'est plus avec nous. » Non, Jésus ressuscité nous invite à vivre aujourd'hui avec lui, Je suis avec vous tous les jours. » La promesse de Jésus dure encore, mais c'est à ses disciples qu'il appartient de manifester sa présence. Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Où rencontrer le Christ vivant aujourd'hui? Où le rencontrer, sinon là où des gens sont réunis parce qu'ils sont disciples de Jésus et qu'ils tentent de trouver ensemble, à la lumière de sa parole et de son esprit, ce qu'est le vrai visage de l'être humain pour que cet être humain soit véritablement fils, fille de Dieu. Oui, seules des petites communautés de chrétiens et de chrétiennes qui s'entraident à vivre à la manière de Jésus peuvent témoigner aujourd'hui que le Christ est présent parmi nous. C'est en vivant l'unité que les disciples deviennent le corps du Christ présent et agissant dans le monde. Écoutons Jacques Lœuve décrire l'unité qui témoigne du Christ, source de la vraie fraternité.
Plus l'Église veut s'adresser à tous les hommes, plus elle veut être missionnaire. Plus il faut que soit visible, lisible aux yeux de tous la fraternité chrétienne authentique. Je veux dire une fraternité qui ne soit pas un vague humanitarisme, mais l'amour même venu de Dieu, descendu d'en haut, et qui saute entre eux une poignée d'hommes et de femmes, consacrés à Dieu par le baptême pour s'aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous aime.
Un amour qui prend sa source dans celui qui unit le Père, qui unit le Père avec Jésus son bien-aimé et l'Esprit d'amour. Voilà la mission que les chrétiens ont aujourd'hui pour que l'Église demeure et que Jésus soit présent parmi eux.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, soit au feuillet, soit à la cassette de Du pain sur la table. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les indications.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Vous nous trouvez aussi sur Internet. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.